Micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les deuxième et quatrième samedis du mois.
À partir de 12h30.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
C'est une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte,
que de la lutte.
En direct sur Radio Campus Grenoble,
90.8 FM.
Et en streaming et podcast sur le site de la radio.
Et bonjour.
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 Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on est en direct de la Méga Radio. C'est une émission de micro-ondes. Et on couvre la manifestation de l'eau, des terres, pas des puces. Lors de cette émission, nous discuterons d'extractivisme, d'accaparement, que nous voulons ni ici ni ailleurs. Dans cette émission, la question qui soulève des enjeux cruciaux pour nos territoires, les ressources naturelles et aussi pour la justice sociale. L'extractivisme, qu'il soit lié à l'extraction minière, l'exploitation des terres agricoles ou encore des dynamiques colonialistes, qu'il engendre, est au cœur de nombreuses luttes menées par nos collectifs et nos communautés à travers le monde. Ces pratiques sont associées à des projets industriels et technologiques et militaires de grande envergure. Et cela a des impacts dévastateurs pour l'environnement, les droits des peuples locaux et autochtones. Nous avons le plaisir d'accueillir les voix engagées de plusieurs collectifs et mouvements de lutte contre cet extractivisme et cet accaparement qui défendent nos terres, nos eaux et nos avenirs, cela localement ou bien globalement. Alors, autour du plateau, nous accueillons plein de collectifs.
Bonjour, moi c'est Claire de Génération Lumière. Et nous sommes une association qui est basée au Congo et en France, et on dénonce la guerre au Congo qui est liée à notre consommation du minerai, notamment liée à notre programme de transition numérique et énergétique et de l'armement. Et donc on sensibilise les petits en école maternelle jusqu'aux eurodéputés. Et aussi, une autre partie de notre association qu'elle en tient à cœur, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des personnes étrangères pour qu'elles puissent porter en France une autre vision de l'écologie qu'on appelle une écologie décoloniale. Et du coup, on accompagne les personnes étrangères à parler de cette autre forme d'écologie pour nous relier à la nature et avoir un autre rapport avec le monde.
Voilà. Merci.
Moi, c'est Marcel des Soulèvements de la Terre. Les Soulèvements de la Terre, on est un mouvement qui luttons notamment contre l'artificialisation des sols et aussi contre l'accaparement de la terre et de l'eau. Voilà, c'est un mouvement qui est né en 2021 sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui, a réuni notamment des jeunes du mouvement, enfin des jeunes et moins jeunes, du mouvement écolo, des personnes de l'autonomie politique, mais également des paysans, syndiqués ou non, et également plein de personnes qui luttent dans leur territoire. Et voilà, donc depuis 2021, on lutte contre pas mal de projets comme par exemple la 69, les méga-bassines, mais plein d'autres. Voilà.
Merci.
Bonjour, moi c'est Étienne de Stop Mine 03. Donc Stop Mine, c'est un mouvement national. Il y a plusieurs associations autonomes les uns des autres en fait qui s'occupent chacune d'un département. Donc le 03, c'est l'allié, et nous on se préoccupe notamment de la méga mine de lithium que Macron veut voir, Macron veut faire éclore à Échassière.
Bonjour, moi c'est So de Minas Não Sem a Vida du nord du Portugal. Donc nous on fait une lutte contre le projet de mine du Barroso. Donc c'est genre un méga projet autour d'une petite village, et en fait ça se fait que moi je suis là, mais en fait c'est la population locale qui est en train de faire cette lutte. Et c'est ça, c'est une mine, quatre mines à ciel ouvert de lithium dans ce petit village, et donc ça c'est devenu un projet plus grand, mais là on fait une lutte locale, quoi, au Portugal, au nord du Portugal.
Bonjour, moi c'est Mathilde du collectif Stop Micro. Donc nous, on est un collectif qui s'est créé en 2022 à la suite d'une annonce d'un agrandissement de l'usine ST Microelectronics. Et chaque année, on réalise une mobilisation. Donc voilà, la première était en 2023. Il y en a une autre qui avait réuni déjà 1000 personnes. L'année dernière, en 2024, elle avait réuni 2000. Et là, cette année, on attend de nombreuses personnes pour rejoindre la lutte.
Merci. Alors aujourd'hui, on vous propose de répondre à un petit jeu de contre-argumentaires. C'est inspiré de la brochure Estée à tort, donc une brochure montée par le collectif Stop Micro. L'idée est donc de tirer au sort une question largement médiatisée et reprise par les entreprises, les pouvoirs publics et une partie de la population lorsque nous faisons face à un projet industriel ou minier. Cela nous permettra donc de croiser les expériences de lutte et de permettre à toutes et tous de contredire ces argumentaires qu'on entend partout. Alors pour la première, on ne la tirera pas au sort. On va la choisir parce que c'est une affirmation et eh bien on va l'offrir à nos invités.
Alors.
Et donc c'est Mathilde de Stop Micro qui prend la question, l'affirmation. Oui.
Alors l'affirmation est pas de quoi s'inquiéter. De l'eau, il y en a plein dans les nappes phréatiques à Grenoble, on est loin des limites. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau parce que nous, on est entouré de montagnes, qu'il y a de la neige, des glaciers qui permettent de nous apporter une eau qui soit propre. Mais en fait, on se rend compte qu'avec le changement climatique et notamment les sécheresses à répétition, il commence à avoir des conflits d'usage. Donc si on se souvient, en 2022, une grosse sécheresse qui nous avait frappés, là, on a eu des restrictions pour ce qui concerne les usages domestiques et agricoles. Donc on commence déjà à percevoir une tension. Et en plus, on voit que les territoires autour, ils n'ont pas forcément autant d'eau. Donc par exemple, le Pays Voironnais qui commence à faire des demandes aussi à la métropole de Grenoble pour assurer ses disponibilités en eau. Donc de l'eau, pour l'instant, il y en a, mais dans le futur, on est moins sûr, quoi.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de cet argumentaire sur la dépollution des eaux qui seront utilisées par cette entreprise ?
Oui, alors donc comme je l'ai dit, l'eau à Grenoble, elle est propre parce qu'elle vient des montagnes et des glaciers. Et donc c'est pour ça aussi que les industriels de la microélectronique sont ici, c'est parce qu'ils ont accès à une eau qui est propre et potable. Mais quand elle rentre dans l'usine, en fait, cette eau, elle est polluée par tout un tas de produits chimiques. Donc, par exemple, ST Microelectronics utilise plus de 20 000 tonnes de produits chimiques de toutes sortes chaque année pour le processus de gravure des puces qui est nécessaire, en fait. Et donc, cette eau, elle ressort complètement polluée de plein de produits. Donc, par exemple, on a noté 750 kg d'azote par jour qui ressort dans la rivière Isère, 1,5 kg de cuivre par exemple, ou encore les PFAS, donc les polluants éternels. On a noté avec l'Agence régionale de santé que ST Microelectronics est le troisième émetteur de PFAS du département.
Et donc l'eau, c'est toujours un enjeu majeur, aussi bien autour de... du coup, de la confection de ces puces et tous les éléments qu'il en faut, mais aussi au niveau de l'extractivisme et aussi des méga bassines et tout ça, l'eau, c'est vraiment central. Est-ce que, du coup, les autres collectifs présents, vous avez envie de nous parler aussi des impacts, notamment des mines sur l'environnement et, du coup, la capacité aux personnes qui habitent les terres de pouvoir encore avoir accès à l'eau? Et du coup, Étienne de Stop Mine 03, tu as envie de nous en parler ?
Oui, alors pour nous, l'eau, c'est quand même un enjeu majeur. Entre l'extraction et la transformation, Imerys, donc l'acteur mondial minier, annonce 1 200 000 mètres cubes de consommation annuelle. Donc c'est quand même colossal. J'ai envie de faire un pont avec les méga bassines parce que, par exemple, dans leur propagande, ils vont dire qu'ils vont utiliser seulement un millième du débit moyen de la rivière. Évidemment, c'est stupide de regarder en débit moyen dans la mesure où les quantités d'eau en hiver et en été, en fait, ne sont pas du tout comparables. Enfin, il y a un endroit... En hiver, tu pourrais... pas t'amuser à traverser à certains endroits. En été, si t'as de l'eau jusqu'aux genoux, c'est un max, quoi. Donc, ils ont prévu pour... alors, je vais sortir leurs éléments de langage pour sécuriser leur approvisionnement en eau, de construire deux bassines de 100 000 mètres cubes sur le site d'extraction. Donc, voilà, les luttes se rejoignent à ce niveau-là.
Et So, est-ce que tu veux nous en parler aussi? Parce que l'eau et la gestion de l'eau, c'est un enjeu très particulier aussi, là où tu mènes cette lutte.
Ouais, je pense que l'eau pour cette population locale, c'est genre En fait, ils font une gestion hyper intéressante et communautaire et ça leur rend sa façon de vivre. Donc toute cette économie, elle part aussi de l'eau, mais c'est de l'économie plus locale avec des vaches, du bois, etc. Donc tout ça a besoin d'eau carrément pour exister, non? Et ce qu'on voit en fait, c'est que l'entreprise, elle va reprendre pas mal d'eau et la probabilité de contamination est tellement haute et on a déjà aussi vu que dans cette contamination, ça peut arriver du nord du Portugal jusqu'au centre du Portugal, en contaminant tout le Rio Douro. Donc je pense que c'est, ouais, c'est assez important, mais aussi pas seulement d'un point de vue technique, mais surtout c'est ça, ça interfère aussi avec la tradition des gens, de comment elles font avec l'eau et comment elles s'organisent localement. Donc c'est aussi, prendre de l'eau, c'est aussi une façon de détruire la façon dont la population a des façons de convivialité, de gérer encore autonomement sa terre.
Pour Claire de Génération Lumière, pour le Congo, et même, je dirais, pour beaucoup de pays des Suds, il y a vraiment un accaparement de l'eau aussi. Pour la construction, pas pour extraire le minerai, on utilise souvent dans les mines industrielles l'eau mélangée, par exemple, pour extraire de l'or avec du cyanure, pour extraire l'or du sol et aussi le séparer du mercure, car l'or et le mercure sont copains. Et du coup, ce cyanure mélangé avec ce mercure plus tous les autres déchets, roches que ne veut pas prendre les industries minières, vont dans les cours d'eau, puis après dans les océans. Et ensuite, Esté Micro pourra mieux l'expliquer que moi, mais on utilise encore de l'eau, beaucoup d'eau, pour l'industrie du numérique, puis après refroidir les data centers. Donc il y a beaucoup d'eau sur tout le long de la chaîne. Et je voudrais ajouter aussi qu'il y a un peu une propagande en ce moment sur les mines propres, des mines qui utiliseraient de l'eau pour extraire les métaux, mais sans produits chimiques comme le sulfate, le cyanure, etc., qui est utilisé. Mais en fait, il faut bien comprendre que même s'il n'y a pas de produits chimiques, de toute façon, pour l'eau va être mélangée avec les matières dans le sol et du coup va porter toutes ces matières, tous ces déchets que ne veut pas l'industrie minière et du coup va après aller dans les cours d'eau et dans de nombreux pays, elle ne sera pas filtrée. Et ensuite, il n'y a aucun moyen de surveillance pour voir si l'eau va être filtrée aussi ici. Donc la mine propre, je tiens à le dire, ça n'existe pas. Merci.
Oui, Étienne, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, parce que j'ai parlé localement, mais enfin, j'ai aussi oublié de dire que, par exemple, sur le site d'extraction, c'est aussi le château d'eau de notre région. Donc la colline où est présent le lithium, c'est le départ aussi de 1000 sources d'eau. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là, au niveau de l'infiltration dans les galeries. Et après, il y a quand même quelque chose en fait, de plus global, enfin, au niveau de l'enfumage qu'on voudrait nous faire croire. Si on part du principe que chaque été, sur la Loire, il n'y a pas assez d'eau pour refroidir les centrales nucléaires, comment est-ce qu'on peut avoir une mobilité électrique, entre guillemets, décarbonée ? Et tu te dis, bon, il faudrait déjà sécuriser les apports d'eau de la Loire. Sauf que, comme je vous ai dit, par exemple, la transformation et l'extraction, on parle d'affluents de la Loire. On a des projets également de méga-bassines à Clermont-Ferrand, plus grosse que Sainte-Soline. Là aussi, c'est des affluents de la Loire. Il y a des canons à neige qui sont subventionnés par Laurent Wauquiez sur des affluents. Enfin, et donc, et je regarde juste dans un micro-périmètre, c'est-à-dire à moins de 50 km de chez moi. Et donc, si on fait, enfin, depuis le début, je me dis, mais à quel moment ils se rendent compte, en fait, que c'est pas durable, ne serait-ce que par rapport à la ressource en eau.
Ok, merci beaucoup. On va passer à une autre question. Et cette fois, on va vraiment faire le jeu du tirage au sort. Alors, je tends ma main innocente vers une autre main innocente. Alors, Sou, tu veux nous lire la question ?
La phrase. C'est l'affirmation, mais c'est essentiel pour notre souveraineté.
Et ouais, la question de la souveraineté. Est-ce que il y a une personne d'entre vous qui a envie de rebondir sur cette affirmation ?
Moi, je veux bien commencer. Mathilde pour Stop Micro. Donc c'est vrai que c'est un argument phare aujourd'hui de dire on doit relocaliser nos industries de la microélectronique en France pour notre souveraineté. Et d'ailleurs, c'était la thématique de notre colloque qui s'est tenu vendredi, samedi à la Bobine à Grenoble. Et donc nous, on a enquêté pas mal sur cette question, donc on a pris cette question au sérieux. On allait faire des enquêtes et en fait, on se rend compte que on est face à un système mondialisé extrêmement complexe et que les usines ici qui gravent les puces, elles sont qu'un maillon parmi d'autres. Donc là, voilà, on est en présence de plein de camarades qui travaillent sur l'extraction minière, c'en est un exemple. Donc ici, on a presque pas de mines en Europe et presque l'ensemble des métaux qu'on utilise dans l'industrie de la microélectronique viennent notamment des pays du Sud, dans des conditions extraits dans des conditions vraiment horribles. Ensuite, STMicroelectronics, par exemple, a plus de 6000 fournisseurs de premier rang. Donc, ça veut dire que voilà, il dépend de plein d'autres acteurs. Et ensuite, ces puces, elles sont assemblées, découpées, mises sous plastique dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et enfin, ces puces qui sont encapsulées elles sont vendues à des industriels qui vont faire leur gadget électronique. Donc en fait, tout ça, c'est un ensemble extrêmement complexe et il est très difficile de pouvoir retracer exactement l'ensemble des matériaux qui composent une puce et où elles vont ensuite.
Oui, vas-y. C'est ça.
Ouais, non, Amine. Mais ouais, genre... Là, au nord du Portugal, je pense que les gens, elles se voient carrément attaquées par ce projet hyper extractiviste. Mais en fait, les gens, elles vivent déjà de façon bien autonome. Et elles vivent dans un rapport avec la nature bien plus vert de ce discours que les politiciens et les entreprises qui viennent faire ce type de projet cherchent à donner au public. Mais en fait, ces gens, elles s'aperçoivent directement que c'est un discours faux et qu'en fait, il n'y a pas plus vert que ce qu'ils font déjà, que c'est des façons ancestrales de vivre et travailler la terre. Donc, pour la population locale et dans notre lutte, on voit carrément que le discours de la souveraineté, c'est vraiment absurde et ça ne fait pas de sens dans le champ réel.
Nous, on se pose la question de où est la souveraineté quand le lithium extrait, il appartient à une multinationale qui va le revendre en fait sur le marché mondial. Donc ça, c'est vraiment un point d'orgue, sachant qu'ils n'ont aucune limite pour vendre... Enfin, ils vont vendre au plus offrant, tout simplement. Donc, est-ce que ça va servir à faire des Tesla ? La probabilité est oui. Est-ce que ça va servir à faire des drones qui vont exploser sur des innocents dans des pays sous tension ? La réponse est oui aussi.
Merci, Étienne, de Stop 1003. Oui, bien sûr. Oui. En réalité, la souveraineté, quand on parle de souveraineté, l'armée, elle n'est jamais loin. Et donc, du coup, il faut quand même que rappeler, comme tu le disais, Étienne, que les puces, l'électronique servent à l'armement et que c'est donc un vase communicant. Voilà. Donc, du coup, ça me fait parler quand même de... Aujourd'hui, peut-être c'est un petit hommage à la Palestine. Parce que c'est le 30 mars, c'est la journée de la Terre. Et donc, du coup, pour combattre pour la Palestine, qui donc battent pour leur terre. Mais aussi, il faut aussi rappeler que ST et Soitec sont main à la main avec l'armement israélien et qu'ils travaillent de manière très forte entre recherche et Israël, sur l'armement, mais aussi directement. C'est-à-dire qu'on retrouve des puces dans des drones en Russie. Et on sait de sources sûres que ça va aussi en Israël. Donc du coup, à Grenoble, il y a un petit groupe qui se bat contre l'armement, que vous allez retrouver en manif tout à l'heure, et qui met à jour les liens entre les multiples PME, ST et Soitec, qui envoie des puces et qui travaille main à la main avec l'armée israélienne.
Et Claire, tu voulais intervenir aussi ?
Oui, par rapport à la souveraineté, en fait, je voulais juste rappeler qu'au 19e siècle, 18e siècle, il y avait beaucoup de mines en France, mais il y en avait encore plus autre part dans le monde. Donc une mine construite en France, ça n'empêche pas la construction d'autres mines ailleurs. On avait calculé il y a un an et demi, combien il faudrait de C'est l'Union européenne qui avait calculé, du coup, avant toutes ces guerres et cette demande en armement, donc maintenant le chiffre est beaucoup plus fort, que pour sa transition numérique et écologique, si elle construisait toutes les mines qu'elle voulait construire en Europe, ça recouvrait que 10% de leurs besoins. Donc ça veut dire que 90%, c'est encore pour le Congo, pour l'Amérique du Sud, etc. Et cette souveraineté aussi, maintenant, elle se traduit par des accords commerciaux coloniaux. L'Union européenne a signé il y a un an un protocole avec le Rwanda pour avoir un accès premier sur les minerais qui viennent du Rwanda, du coup du Congo. Macron, il y a deux jours, était en Argentine aussi pour proposer au président argentin de l'argent contre le lithium de l'Argentine. En fait, la souveraineté, elle dépend du coup pour l'Europe de la non-souveraineté d'autres pays à travers des accords commerciaux.
Et bah, du coup, je pense que c'est le moment parfait pour qu'on écoute le morceau que tu as choisi, Claire. Est-ce que tu veux nous le présenter ?
Oui, du coup, c'est un morceau qui s'appelle Free Congo, qui a été écrit par beaucoup de rappeurs connus en France. Il faut savoir qu'en France, il y a énormément de rappeurs qui viennent de République démocratique du Congo parce qu'il y a une grande culture musicale là-bas. Et donc, je vous laisse écouter cette musique qui dénonce la guerre au Congo qui n'est pas assez présente dans les médias.
Allez, on écoute Free Congo et on se retrouve pour la suite de notre plateau.
Micro-ondes.
Des millions de morts au nord qui vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kaga mais sans M23. Des millions de morts à l'est du Congo. Et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal. On n'a jamais demandé ça. J'implore le bon Dieu de me faire un signe. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. Si j'en parle trop, ils vous trompent des seins. Et nos mamans se font violer. Ne rentreront peut-être pas à la maison.
Que mon pays va mal, que mon peuple est révolté. Que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé. Je peux pas faire grand chose. Écoute nos cœurs qui se brisent. Je me demande d'où vient le problème d'un pays aussi riche. La faute à ceux qui voient leur poche avant la société. Mais c'est l'humain, 70% craque pour le gros papier. Je demande la paix dans le monde comme une miss. Même à Gaza, des mots meurent en masse. Un peu d'humanité, c'est la base. Tout n'est que vanité, yeah. Tout s'efface.
Sors pas de dodo comme système à tanga. Soir, c'est la veillée. Des familles effrayées, j'ai le cœur endeuillé. Parce que mon pays peu à peu s'effeuille, faudrait qu'on se réveille. Sors pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Terre de richesse et de sang, sur ma terre de richesse et de sang. Les mines, les minerais, les mines, les minéraux, le même numéro des crimes ignorés, malgré le sang de nombreux innocents.
Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau des Minem. Alors les JT vont pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais. Congo Mbokaba Papa, Congo Mbokaba Mama. Mais à Goma j'ai vu des barbares. Des sapeurs ont des gilets pare-balles. Paul Kagame, faut le condamner. Mais aussi faut reconnaître ceux qui dirigent le Congo. N'aiment ni le Congo, ni les Congolais.
Des millions de morts, on argue vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kaga mais sans M23.
Ah, le Paul a tué plus que Hitler. C'était Congolais donc ça compte pas. Chaque manœuvre qui fout sa bombarde. Free Congo tous les jours mon combat. Sans tuer le Mumba, ils nous ont rendu une dent. Chez nous y'a que des morts, des pleurs et du sang. On meurt pour des diamants, cobalt et coltan. À la moindre escarmouche comme le président.
Ne jamais trahir le Congo qui vivra verra. Si Kagame n'est pas jugé, crois-moi que Dieu le fera.
Hey. Je suis venu, j'ai vu, j'ai failli pleurer. J'ai la haine, mon âme est écœurée. Je suis fatigué d'avoir mal, comme une envie de prendre les armes. Si je prends les armes, c'est plus trop la thématique. La nation désunie par les Nations Unies. On parle de Paul, mais parlons des autres aussi. Les pupilles sont humides sous les fossiles. Je suis pas là pour chanter la pitié, je m'aurais sans doute empoisonné. Votre Congolais n'a pas peur de la mort, encore moins si c'est pour l'unité.
Des millions de morts, on argue vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kaga mais sans M23. Des millions de morts, on argue vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts.
qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M23.
C'est toujours micro-ondes, du coup on est en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8 et aussi sur Méga Radio. On est en direct de Bernin et on retrouve nos invités qui ont tous et toutes participé au week-end qu'organisaient Stop Micro et les Soulèvements de la Terre, qui se termine aujourd'hui avec la manif à Bernin. Et donc un peu avant d'écouter le morceau Free Congo, on parlait d'armement notamment. Et je crois, Marcel, tu voulais dire quelque chose à ce sujet et nous parler... une campagne.
Oui, tout à fait, parce que quand on parle de souveraineté, on parle, enfin, là, il y a de plus en plus de discours dans les médias autour notamment de la souveraineté par rapport à l'armement. Et du coup, ça me semblait important de rappeler que à quel point ce discours est hypocrite dans le sens où, mais ça a déjà été dit, que la France est le second exportateur d'armes au monde et que, si on prend juste l'exemple de ST, c'est effectivement un des... ST a un rôle très important auprès du complexe militaro-industriel israélien et russe. Parce qu'on va, voilà, vous l'avez dit, mais on retrouve des puces de ST dans les drones kamikazes qui pilonnent l'Ukraine actuellement. Blast avait fait une enquête dans laquelle ils avaient identifié en un seul trimestre pendant en 2023 plus de l'équivalent de 30 millions de matériel de ST qui a été vendu à la Russie. Et là-dessus, je voulais également parler de l'endroit où on se retrouve notamment avec Stop Micro, entre Stop Micro et les Soulèvements de la Terre, c'est sur la question de l'antimilitarisme, puisque les Soulèvements de la Terre prennent part à une coalition antimilitariste auprès de plus de 10 organisations et collectifs, comme par exemple Urgence Palestine. Et voilà, cette coalition, elle s'est réunie notamment autour de la nécessité et l'urgence de prendre comme point de départ la question de la Palestine. Elle vise à faire un travail contre-hégémonique, de contre-hégémonie culturelle à l'endroit justement de tous ces discours pro-armement, mais aussi d'organiser des actions. Et je voulais en profiter pour vous rappeler à toutes et tous la date du 21 juin, pendant laquelle on vous invitera à perturber la bonne tenue du Salon du Bourget pour dénoncer la présence d'entreprises israéliennes ainsi que l'économie de guerre.
Eh ben merci, le rendez-vous est pris. Alors, on va reprendre notre petit jeu du tirage au sort. Alors, Étienne, lis-nous ta phrase.
Et les emplois, vous en faites quoi ?
Eh ben ouais, les emplois, vous en faites quoi ? Vas-y, So.
Juste parce que dans notre lutte, genre, en vrai, ce qu'il propose va affecter des centaines de travail. Les gens qui habitent là vont tous perdre leur façon de vivre. Donc, en fait, c'est ça.
Mathilde ?
Oui, Mathilde Stop Micro. Donc, c'est vrai que les emplois, c'est aussi un argument qu'on nous balance souvent. Et alors, la question des emplois, vous en faites quoi ? Donc, par exemple, c'est vrai que ST est le premier employeur privé du département avec presque 7000 emplois. Et donc on se rappelle, en 2022, Emmanuel Macron était venu avec une enveloppe de presque 3 milliards d'euros pour l'agrandissement de ST. Et en contrepartie, ST promettait 1000 emplois. Donc en fait, ça fait 3 millions d'euros pour un emploi. Donc on imagine ce qu'on pourrait faire avec cet argent et créer des emplois dans les secteurs qui sont vraiment sous tension. Donc on pense à la santé, à l'éducation, à l'agriculture, tout ça. Et aussi... ces usines, il faut bien avoir conscience, et ces industriels, ils ne sont pas là. Leur objectif, ce n'est pas de créer de l'emploi local, c'est de faire de l'argent. Donc là, par exemple, il y a quelques semaines, ST a fait peser une menace de licenciement de 3000 emplois en France et en Italie. Donc en fait, quand ils ont des opportunités ailleurs, ils vont ailleurs et ils mettent les employés à la porte.
Étienne ?
Oui, c'est marrant parce que nous aussi, nous promettent 1000 emplois. J'ai l'impression que ça fait partie du kit de propagande des grands projets inutiles imposés. Alors du coup, ils se dépatouillent un peu comme ils peuvent pour arriver à ce fameux chiffre, notamment en parlant d'emplois directs et indirects. Donc il faut imaginer que si par exemple, tu as 35 emplois à la mine, bah, tu as la boulangerie du village qui va ouvrir. C'est complètement incohérent de penser comme ça. En tout cas, nous, on dénonce en fait les emplois d'Imerys annoncés, tout simplement en regardant
dans les permis de construire pour les parkings des employés. C'est-à-dire quand ils annoncent 350 emplois, en fait, le parking, il fait 35 places. Donc, on s'imagine qu'ils vont développer à fond le covoiturage.
Ok, on dit au revoir à Marcel et Mathilde qui doivent partir pour préparer leur point presse, je crois. Ça continue. Mais bien sûr, on reste avec nos autres invités un petit peu. Est-ce que vous aviez un... Claire, tu as envie de réagir sur cette question ? Parce que, bon, si on parle d'emploi en France, on peut... Avec la question de l'emploi, il y a aussi la question quelles conditions de travail ? Aussi, pourquoi faire des emplois qui créent des choses horribles, finalement, dont on se passerait bien ? Et peut-être on peut parler des conditions de travail aussi dans les mines en RDC, si tu veux nous en dire quelque chose.
Oui, pour 20% des mines en RDC qu'on dit mines artisanales, elles sont, les employés sont souvent des enfants en fait, parce que c'est plus facile pour elles de creuser, de rentrer dans les trous. Mais du coup, les enfants sont pas du tout protégés, ils ont juste une petite lampe et ils souffrent d'asphyxie parce qu'ils peuvent pas beaucoup respirer dedans. C'est un tombeau en fait qui creusent eux-mêmes leur propre tombeau avec du coup beaucoup d'effondrements de roches sur eux. Et après, une menace permanente des groupes armés qui les surveillent, qui les obligent à travailler dans ces mines-là. Le salaire moyen, c'est $12 par mois. Et les enfants sont beaucoup moins payés que les adultes. Donc on n'imagine même pas le salaire pour les enfants. Et ensuite, pour 80% des mines, et je crois, il me semble, 95% des mines dans le monde, c'est des mines dites industrielles à ciel ouvert. Et là, à chaque fois, il y a cette propagande d'emploi. Mais en fait, c'est très peu d'employés, puisque c'est plutôt des énormes tracteurs qui prennent plein de roches d'un coup, ou des machines qui... Et du coup, c'est très peu d'employés. Finalement, c'est quelques centaines d'employés. Et ensuite, si on continue la chaîne de l'extractivisme, ces métaux qui sont purifiés, après, ils vont souvent pour le numérique dans une usine qui s'appelle Foxconn, par exemple, en Chine. Et là, c'est une ville-usine avec des millions de personnes qui sont souvent, pour la moitié des effectifs, des adolescents et des enfants. Qui sont pris du coup dans des villages ouïghours ou tibétains de l'est de la Chine et qui, en contrepartie d'une rançon pour leur famille, vont dans ces villes-usines et travaillent 13 heures par jour, 6 jours sur 7 et 2 nuits pour faire des économies d'énergie et sont logés et nourris sur place et ils doivent payer eux-mêmes à leurs employeurs leur logement et leur nourriture. Et du coup, c'est une usine suicide où il y a des dizaines de personnes qui se suicident par an malgré une charte qu'ils doivent signer avant d'être employés, qui promettent qu'ils vont ne pas se suicider. Enfin,
cette charte a sauté récemment, mais je pense pas que les conditions soient améliorées pour autant. Tu voulais dire quelque chose ?
Merci, ouais, Claire. C'est que en fait, on a reçu un groupe d'anciens miniers à Covas do Barroso, donc eux, ils sont là contre le projet et pour parler de ses expériences sur les conditions de travail qu'ils ont. Et genre, le truc qu'ils parlent toujours, c'est carrément la plupart de ses compagnons, de ses alliés, camarades, sont morts de cancer. Et qu'en fait, genre, ça c'est hyper répandu, mais personne n'en parle et qu'il y a plein de problèmes de santé. Et que oui, je sais pas, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cet réseau d'anciens minières, d'ouvriers qui sont là avec nous en lutte parce qu'ils savent mieux que nous, non, c'est qu'il est travaillé sous ces conditions.
Merci. Alors, est-ce qu'on repasse à la question, à la phrase suivante ? Alors Claire, qu'est-ce que tu as pioché ?
Les innovations technologiques qui comportent...
Des puces ?
Ah pardon, des puces sont indispensables à un monde bas carbone.
Bon, on n'a plus Stop Micro pour répondre aux questions extraites de la brochure de Stop Micro. Mais est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
Oui, ça m'inspire tous les produits dérivés vendus dans le système capitaliste dont on n'a absolument pas besoin. Il y a une liste non exhaustive de frigos connectés, de maillots de bain connectés, de trucs qu'on ne peut pas imaginer, en fait, où des puces vont être consommées de manière complètement inutile et grotesque.
Ouais, pour moi, j'avoue, genre, cette population locale, ils ne savent même pas comment accéder à un ordi. Donc, genre, pour eux, le numérique, il est complètement dehors son imaginaire et ce qu'ils ont envie de travailler avec. Genre, eux, ils travaillent avec des outils hyper anciens, ils vont continuer à le faire. C'est eux qui produisent ses propres instruments. Donc, en fait, oui, ils vivent dans une société capitaliste, mais ils n'en font pas partie vraiment. Genre, ils sont bien dehors toute cette rhétorique du numérique.
Claire, de Génération Lumière.
Du coup, dans ces puces, il faut des minéraux, des minerais. Et en fait, l'activité minière, c'est l'activité humaine qui produit le plus de dioxyde de carbone et de pollution de l'air. Mais ça, personne n'en parle, en fait, dans les chaînes de production, dans les analyses cycles de vie des appareils électroniques. En fait, à cause du manque de traçabilité du minerai, on ne prend pas en compte l'impact carbone de tous ces produits-là. Et pour le Congo, en fait, c'est 500 000 hectares de la forêt du bassin du Congo qui sont détruites chaque année. Et maintenant, la forêt amazonienne a tellement été décimée que c'est le premier poumon vert de la planète. Donc, en fait, faire de l'extractivisme, c'est polluer l'air à cause de l'activité minière, c'est déforester et du coup perdre nos puits de carbone. Et maintenant, il y a aussi des activités minières dans les océans, donc c'est aussi l'acidification des océans. En fait, cette phrase n'a pas de sens, puisque pour faire des puces, il faut faire l'activité qui crée le plus de carbone.
Ok, merci pour ces précisions. Et du coup, peut-être on fait notre dernier petit papier. Alors, So.
Vous préférez que les puces soient produites en Chine ?
Bon, ça retouche un peu à des questions qu'on a un peu abordées aussi sur la relocalisation, sur aussi comment les conditions de travail seraient meilleures en France. Mais bon, est-ce que vous avez envie de rajouter un truc par rapport à cette affirmation-là, Étienne ? Ouais.
Oui, déjà, en fait, je pense que la première question, c'est pas où elles sont produites. L'idée, c'est l'usage, en fait. Enfin, des puces, pourquoi faire ? Du lithium, pourquoi faire ? Si c'est pour faire n'importe quoi, sachant qu'on est déjà dans une situation, enfin, critique sur toutes les limites planétaires, quand elles sont pas dépassées, on n'en est pas loin, il reste juste un petit effort à faire. Et du coup, ne pas se poser la question des usages, juste de où est-ce qu'on produit, c'est tellement insuffisant comme raisonnement.
Et bah du coup, on va se réécouter un petit morceau et après, on se retrouvera pour la dernière partie de notre émission. Et c'est une chanson qui a été faite par une camarade de Stop Mine 03. Tu veux en parler vite fait, Étienne ?
Alors, de la camarade, elle s'appelle Audrey. Elle va interpréter sa chanson.
Voilà, on écoute ça tout de suite.
Il était maquillé comme un super projet sous les projecteurs. Nanana. Si tu grattes le vernis, c'est un projet pourri qui fait vraiment très peur. Nanana. Ils en faisaient un peu trop, les hommes de tout en haut. Wall Street est dans leur tête, les erreurs ils répètent. Mais nous n'en pouvons plus, ils nous ont trop déçus, ils ne comptent que sur le pactole, et tant pis pour nos fioles. Ah, 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 ah. Croire qu'on va sauver nos têtes en exploitant plus la planète est une grossière erreur. Nanana. Une croissance infinie dans un monde fini n'est qu'un terrible leurre. La 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 la. Ils en faisaient un peu trop, les hommes de tout en haut. Wall Street est dans leur tête, les erreurs ils répètent. Mais nous n'en pouvons plus, ils nous ont trop déçus. Ils ne compte que sur le pactole, et tant pis pour nos fioles. Transformons nos peurs en colère, ne les laissons plus faire, et reprenons tous en cœur. Na 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 na, ils en faisaient un peu trop, les gens de tout en haut. Wall Street est dans leur tête, les erreurs ils répètent, mais nous n'en pouvons plus, ils nous ont trop déçus, ils ne comptent que sur le pactole, et tant pis pour nos fioles. Ah ah. Voilà.
Eh ben merci pour cette belle chanson. Donc on est en direct de Micro-ondes sur Radio Campus 90.8, mais aussi de la Méga Radio en direct de Berne, de la manifestation de l'eau, des terres, pas des puces. Alors pendant cette chanson, on a discuté un petit peu et on avait envie d'aborder le déni de démocratie que ça engage. Et Étienne de Stop Mine va nous en parler un petit peu.
Oui, parce qu'on a déjà balayé les arguments sur les emplois, on a pu dire que c'était faux, on a parlé de la souveraineté, on a montré que c'était un faux prétexte, qu'il y a l'armement surtout derrière et que ça ne va pas marcher dans ce sens. On met souvent aussi sur le terrain des arguments, donc la démocratie, comme quoi ici c'est fait de manière plus démocratique. Il faut comprendre que Macron a annoncé le projet en direct à la télé sans utiliser une seule fois le conditionnel, qu'avant même la fin du débat public, un décret du gouvernement tomber pour accélérer le projet. Donc nous, on pose la question, où est la démocratie dans ces conditions, surtout lorsque lors du débat public, en fait, tu as 40 minutes de temps de parole pour Imerys, et nous, en fait, au bout d'une minute 45, ils commencent à nous mettre la pression, à essayer de nous retirer le micro, et on est obligé de lutter avec des armes qui sont évidemment inférieures, donc pour nous, il n'y a pas de démocratie dans ce système-là. Ensuite, il y avait un dernier point, c'est l'environnement. On va toujours nous bassiner en disant que les normes environnementales seraient plus élevées ici qu'ailleurs. C'est également faux, puisque ces décrets, justement, à la fois européens et du gouvernement français, abolissent en fait les progrès environnementaux qu'on pourrait avoir. Je vois à Échassière, en gros, on a une liste de 51 espèces protégées qui ne vont pas compter dans le projet, puisqu'il est d'intérêt national majeur.
Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être rebondir sur le lien entre politique et entreprise ? Parce que c'est très très présent, ça, dans ces luttes-là. Il ne peut pas se créer un projet comme ça sans les politiques, sans l'aide.
Alors chez nous, en fait, il faut savoir que l'entreprise Imerys était subventionnée pour faire de la prospection minière. Et donc, en gros, c'est le jeu du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ils sont subventionnés pour chercher. S'ils ne trouvent pas, ils ont la subvention. Et s'ils trouvent et qu'ils exploitent, là, ils devront rembourser la subvention en question sur la parcelle délimitée. Donc, en gros, l'industrie gagne à tous les coups. Et évidemment, je pense que quand l'État dépense de l'argent de cette façon-là, sans qu'on puisse avoir notre mot à dire en tant que citoyen qu'on habite... peu importe où on habite, en fait, en France, en fait, c'est notre argent qui est concerné. Donc là aussi, on voit le déni de démocratie.
Merci.
Dans le cas de Barroso, c'est très clair aussi que l'État, en fait, il aide l'entreprise à exproprier des terres. Donc pour que l'entreprise puisse faire son projet là-bas. Donc pour nous, c'est hyper clair aussi que l'État, il est connivant avec tous ces enjeux, donc carrément la démocratie, j'aime même pas ce mot, quoi. Genre, c'est ça. Carrément, notre État, il est là en train d'aider activement une entreprise. Et même s'il dit à la télé, même si le gouvernement dit qu'il veut écouter les gens, en fait, notre gouvernement, il est déjà tombé l'année dernière à cause des mines. Parce qu'ils ont découvert des contrats de prospection qui n'étaient pas bien faits, qui étaient accélérés, je ne sais pas quoi. Donc on voit carrément un système qui aide le capitalisme et qui ne veut pas aider les gens.
Claire de Génération Lumière, nous, au Parlement européen, parce qu'on fait beaucoup de plaidoyers, quand on est arrivé et qu'on a présenté les accords commerciaux, les protocoles qu'il y a entre l'Union européenne et le Rwanda, les eurodéputés n'étaient même pas au courant parce qu'en fait, ce protocole n'est même pas passé par le Parlement européen et il n'a pas du tout respecté les lois institutionnelles européennes. Et là aussi, c'est pas la démocratie représentative des peuples, mais c'est la démocratie représentative de l'élu, de nos institutions. Et donc, en février, tous les eurodéputés, sauf 4 personnes, ont voté pour une résolution d'urgence qui demande à la Commission européenne d'arrêter ce protocole entre l'Union européenne et le Rwanda. Et en fait, la Commission européenne, à la fin de la séance, s'est juste levée en disant « Bah non, le Rwanda, c'est notre premier partenaire africain, on ne va pas arrêter les accords comme ça, on peut, si vous voulez, envoyer de l'aide humanitaire, dépenser de l'argent pour ça, mais on va continuer à acheter du minerai du Rwanda, du coup, qui vient du Congo, donc ça n'a pas de sens non plus. » Et donc là, les eurodéputés eux-mêmes n'ont pas de pouvoir sur le sujet du Congo. Et après, je voulais juste ajouter qu'il y a la démocratie, donc le pouvoir des peuples. Mais nous, on tient vraiment à Génération Lumière à prendre en compte aussi la représentation des vivants, de tous les vivants qui subissent ça et qui ne sont même pas consultés en fait, dans tous ces enjeux et de tous les écocides que ça a créés partout dans le monde. Pour vous donner une petite idée, 10% de la surface terrestre est polluée par les activités minières. C'est énorme, 10%. Voilà, c'est tous ces vivants qui ne sont pas pris en compte.
Merci.
Ben, du coup, pour finir cette émission, on va peut-être vous demander où en sont vos luttes actuellement. Est-ce qu'il y a des dates aussi qui arrivent que vous voulez communiquer ou s'il y a des façons de vous soutenir, comment suivre ce qui se passe ?
À Barroso, là, on est dans un moment très sensible. Donc, je pense que c'est ça, l'État est en train d'essayer d'exproprier des terrains. Mais encore une fois, l'État, il y a un mois, il est tombé. Donc, ça a créé aussi une certaine ouverture pour l'entreprise d'y rester dans les terrains, même s'ils ne sont pas bienvenus, même au niveau légal. Donc, maintenant, je pense que la lutte, elle... On est un peu sans savoir trop quoi faire parce que, genre, il y a une semaine, ils ont rentré dans des terrains privés des gens, ils ont commencé les perforations. Tout ça au milieu de la nuit, dans le week-end, quand ils savent que les gens sont en train de dormir. Donc, vraiment, ils ont une violence hyper crainte et je pense que la population commence à être un peu déçue et elles ne savent pas trop bien quoi faire. Et donc en ce moment de la lutte, on essaie toujours d'y aller dans un axe légal et juridique, mais je pense que en ce moment on va avoir besoin de faire des autres choses, quoi.
Alors nous, on en est à l'enquête publique du projet pilote. J'explique vite fait. En gros, en 2026, doit commencer l'exploitation, mais de manière entre guillemets modérée, pour arriver en fait à une exploitation totale, c'est-à-dire plein pot en 2028. Donc là, on en est à l'enquête publique du projet pilote qui doit commencer donc, en 2026 et s'arrêter en 2028, là où la mine est censée cracher 34 000 tonnes de lithium par an. Nous, on est sur une lutte donc rurale, un territoire extrêmement rural. Et la différence avec d'autres luttes sur ce type de territoire, c'est l'accélération. C'est-à-dire qu'entre l'annonce du projet d'Emmanuel Macron et la mise en route, à grande cadence de la mine, il s'écoule 6 ans. Donc on en est déjà à 3, il nous reste 3 ans pour essayer de stopper, ce serait génial, mais au moins de gagner du temps, de reculer, d'avoir un maximum de garanties, mettre l'épine la plus profonde possible dans leurs pieds. Et au niveau des dates, donc on organise des rencontres et on va inviter beaucoup de collectifs qui luttent sur le thème de l'extractivisme en France les 25, 26 et 27 juillet.
Et où ?
Donc à Échassia, le lieu, ou proche en fait. On a des plans A, des plans B, des plans C, on n'est pas encore totalement bien sur le terrain.
Merci Étienne.
Claire pour Génération Lumière, du coup nous ça fait un an qu'on est en campagne de plaidoyer pour vraiment changer notre façon d'habiter la terre et arrêter de consommer du minerai. Et du coup, tout dénoncer la guerre au Congo. Et donc, il y a eu des avancées aussi, pas que grâce à nous, mais à cause de la montée de la violence qui se passait en janvier et février au Congo. Donc, il y a plusieurs États qui ont décidé de sanctionner ou d'arrêter le Rwanda ou arrêter leurs accords commerciaux et militaires avec le Rwanda. Mais au niveau de l'Union européenne, c'est la France qui bloque beaucoup. Pour faire pression sur cette Commission européenne qui ne veut pas bouger, parce que aussi la France, on va passer par les ministères des différents pays et passer par la rue aussi. Donc on organise un premier rassemblement le 26 avril à Lyon. Ça sera sous forme d'un dying, donc on va être tous couchés par terre. Et l'idée, c'est de faire plusieurs événements sur la place publique et notamment un autre le 27 mai, il me semble. Et parler énormément du Congo dans la rue, puisque les médias ne le font pas. Et donc, on s'est dit que par la rue, ça peut peut-être être plus visible pour continuer cette avancée et débloquer des choses à l'échelle au moins européenne. Mais en tout cas, à l'échelle internationale, ça bouge. La Cour pénale internationale a décidé de rouvrir le dossier sur le Congo. Donc, on a des bonnes nouvelles face à la montagne de mauvaises nouvelles qu'on a au Congo. Donc voilà, le prochain rendez-vous, c'est le 26 avril à Lyon.
Merci Claire. Et juste une petite info sur Radio Campus Grenoble, il y a une nouvelle émission qui s'appelle La matinale décoloniale, qui existe depuis quelques mois là. Et leur prochaine émission, c'est le vendredi 11 avril à 11h. Et dans cette émission, les camarades parleront aussi de la RDC et des accords passés avec le Rwanda par la France justement. Donc n'hésitez pas à écouter ça. Et Sot, tu voulais reprendre la parole?
Jusque aussi au Portugal, de 21 à 24 d'avril, on va avoir aussi un espèce de campement pour que les gens puissent parler, puissent dialoguer sur les mines. Donc à Covas do Barroso, de 21 à 24 avril, mais au Portugal.
Etienne a quelque chose à nous dire aussi.
Oui, parce que j'ai parlé du week-end d'Aïcha Sierre, mais on fait un appel aussi à une mobilisation donc nationale et internationale. Et donc l'année dernière, en fait, il y avait eu des actions dans 7 pays différents le 18 août. Et donc on espère faire mieux cette année sur la semaine entre le 22 et le 27 juillet.
Ok, merci beaucoup. On arrive au terme de ce plateau. Merci à nos invités d'être venus au milieu de ce week-end où il se passait beaucoup de choses. Oui, on peut les applaudir, la foule en délire derrière vous.
C'est bien quand
du coup, ça, c'est fini pour Micro-Ondes. On se quitte avec un dernier morceau de musique choisi par So, si tu veux nous le présenter.
Ouais, ça s'appelle Zeca Afonso, il est un chanteur révolutionnaire. Et en fait, ça fait partie d'un album qui est une espèce de répertoire de la musique portugaise traditionnelle. Donc, il a fait un répertoire ethnographique de la musique portugaise. Et ça, c'est une ode à la montagne.
Et bonne manif.
Merci. Bonne manif.
Et bonne manif.
Entro do val, entro do val, entro do chucalheiro, que não deixas assentar e as mocinhas ao solheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Que no monte é que estou bem, que no monte é que estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Onde não veja ninguém, que no monte é que estou bem. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Quem seria a caiadeira, quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Com ramo de laranjeira, quem seria a caiadeira?